Bonjour. Vincent Lambert est mort, l'ex-infirmier, aujourd'hui âgé de 42 ans, vivait depuis plus de 10 ans dans un état végétatif. Après 6 ans de bataille judiciaire, ses traitements avaient été arrêtés le 3 juillet. Pas de tristesse pour son neveu François, qui voit dans cette annonce au contraire la fin des souffrances pour tout le monde et la fin d'une affaire devenue emblématique des débats sur la fin de vie. Une affaire qui a fait bouger beaucoup de choses dans la société. On en parle avec notre invité Régis Aubry, spécialiste des soins palliatifs, ancien président de l'Observatoire sur la fin de vie. La saga judiciaire, en revanche, n'est pas tout à fait terminée. Après la plainte des parents pour homicide volontaire, les parents de Vincent Lambert qui dénoncent à nouveau ce matin un crime d'État, le procureur a décidé d'autopsier le corps. L'avocat de Rachel, épouse de Vincent Lambert, dénonce une grave erreur de la justice. Dans l'affaire Rugy, d'accord pour le déontologue, le ministre de la Transition écologique mis en cause par Mediapart pour avoir mené grand train quand il était au perchoir de l'Assemblée, se dit prêt à jouer la transparence absolue. S'il organisait des dîners privés, alors il devra rembourser, a notamment commenté le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini. Par ailleurs, ce matin, la directrice de cabinet du ministre, Nicole Klein, mise en cause pour avoir occupé indûment une HLM, a annoncé sa démission. Dans ce journal également, du bio chauffé sous serre, d'accord, si les serres sont chauffées par énergie renouvelable. Les acteurs de la filière fruits et légumes se sont mis d'accord pour de nouvelles règles, interdisant notamment les légumes bio d'été produits en France de la fin décembre jusqu'à la fin avril. La taxe GAFA, définitivement adoptée par le Sénat, en réponse aux Américains qui menacent la France de représailles, Bruno Le Maire répond que la taxe ne déroge à aucune règle.
Nous devons régler nos différends autrement que par la menace. La France est un État souverain et elle continuera de décider souverainement de ses décisions fiscales.
L'exploit technique des Japonais, ils ont posé une sonde à 340 millions de kilomètres de la Terre sur un astéroïde, Sophie Becherel.
Ryugu est un petit caillou de 1 km de diamètre seulement. Sa surface est très accidentée, un vrai champ de patates. Pourtant, Hayabusa 2 a réussi à se poser et à récupérer quelques grammes de poussière d'astéroïde.
Le Tour de France, la première vraie difficulté dans les Vosges. La fameuse planche des belles filles, une pente très brève mais très raide, à plus de 20%. Et puis bien sûr la météo, bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Mais un peu plus nuageux.
Oui, alors 23 à 32 degrés cet après-midi, jusqu'à 35 sur le sud-est. On trouve le soleil du sud-ouest à la Méditerranée, des éclaircies également près de la Manche jusqu'en région parisienne. Et puis sur le centre et plus à l'est, là, pas mal de nuages et des averses des Ardennes à l'Alsace.
Et le bulletin météo, bien sûr, en fin de journal.
France Inter.
Il n'était plus alimenté et plus hydraté depuis le 3 juillet, il y a donc 8 jours. Vincent Lambert est mort ce matin à 8h24. Décès annoncé par sa famille, notamment son neveu François. En état végétatif depuis près de 11 ans au CHU de Reims, Vincent Lambert était devenu le cas emblématique du débat sur la fin de vie en France. On va y revenir. La toute première réaction est venue du neveu de Vincent Lambert, François, qui depuis le début s'était opposé aux parents sur l'arrêt des traitements. François Lambert, pour qui ce jour marque la fin de l'affaire, et sans tristesse, puisqu'il marque aussi, dit-il, la fin des souffrances pour tout le monde.
C'est un soulagement, évidemment. C'est pas triste, les gens me disent toutes nos condoléances, mais au courage ou moment difficile, mais en fait, non. Ça remet les choses dans l'ordre, en fait. C'était ce qu'on attendait depuis des années, on y était prêts depuis des années. On redevient dans quelque chose de rationnel. Vincent, il était en état végétatif, il aurait pas voulu vivre comme ça. Et il a pu partir dans les meilleures conditions possibles à l'heure actuelle, mais il a quand même pu partir. Là, j'espère qu'il repose en paix. Ce qui compte après, c'est comment ça va s'organiser pour la suite, l'enterrement, et ça va être un moment fort et intime. Pour le coup, je pense que ce serait bien que ce reste intime, et pour moi, l'affaire Vincent Lambert, elle se termine là, clairement, aujourd'hui.
François Lambert, au micro de Julie Pietri, tout à fait différente la réaction des parents Lambert, qui, par l'intermédiaire de leur avocat, ont réagi ce matin dans un communiqué assurant que Vincent avait été tué par raison d'État, par un médecin qui a renoncé à son serment d'Hippocrate. Les parents de Vincent Lambert, qui avaient porté plainte contre le médecin, on va en parler dans un instant. La mort de Vincent Lambert à 42 ans, en tout cas 11 ans après son accident de voiture, c'est donc la fin d'un long feuilleton judiciaire qui avait débuté il y a un peu plus de 6 ans, quand les parents, justement, s'étaient opposés à la décision du corps médical d'arrêter les traitements. Daniel Messager.
Aujourd'hui, Vincent Lambert ne vit plus, mais sa vie, c'était celle d'un état végétatif depuis 2008, depuis cet accident de moto, alors qu'il n'avait que 32 ans et était père d'une toute petite fille. En 2013, aucun progrès n'étant apparu et l'équipe médicale ayant constaté des mouvements de refus lors des soins, décide, comme l'autorise la première loi Leonetti sur la fin de vie, de le laisser mourir en arrêtant l'alimentation. Mais l'hydratation est maintenue dans un premier temps et ses parents, qui n'en avaient pas été informés, se lancent alors dans une bataille juridique qui semble sans fin. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne leur donne raison, l'alimentation est rétablie. Rachel, son épouse, s'exprime alors au micro de Monique Derrien. On est en mai 2013.
Moi, je veux que Vincent soit respecté. Je trouve ça dommage que notre histoire ait pu être reprise et récupérée par un lobby, j'ai envie de dire. Quand notre histoire a commencé à apparaître sur Internet, clairement, on voyait que c'était repris par une mouvance qu'on pourrait appeler pro-life, quoi. Donc la vie coûte que coûte, mais à quel prix? Et qui en paye le prix?
Ce sera le prix de 34 décisions. Parmi les plus importantes de ces décisions, celle du Conseil d'État en 2014 en faveur de l'arrêt validé par la Cour européenne des droits de l'homme un an plus tard. Mais décision pas mise en application. Le premier médecin, le docteur Éric Carigère, a jeté l'éponge. Objet de menaces et d'insultes, on le traite de nazi. Il a d'ailleurs envoyé un communiqué ce matin où il rappelle que vivre pour Vincent Lambert, ce n'était pas avoir un cœur qui bat, mais voir la mer, sentir le vent, être libre. Le second médecin, le docteur Daniela Simon, estime que les conditions de sécurité et de sérénité ne sont pas réunies. Elle aussi évoque des menaces. Rachel Lambert est nommée tutrice en 2016. C'est important car les parents lui déniaient jusqu'alors ce droit. S'en suivent pendant des années des arrêts, des décisions, de nouveaux conseils d'État, de nouveaux cours européennes des droits de l'homme. Mais rien ne se passe car le CHU de Reims n'ose plus bouger et un nouveau médecin arrive en 2017.
Le docteur Vincent Sanchez.
Et c'est lui qui va relancer le processus. Il y a un an, après concertation collégiale, c'est-à-dire équipe médicale, famille, c'est un homme discret qui ne parle pas à la presse, on le dit très rationnel et légaliste. Il faut rappeler que médicalement, tous les rapports ont conclu que Vincent Lambert était dans un état végétatif irréversible, sans accès possible à la conscience. Ces mots du rapporteur avaient résonné dans la salle du Conseil d'État. Vincent Lambert est emmuré dans une nuit de solitude et d'inconscience.
Et puis la dernière tentative des parents, rappelons-le, les parents qui s'appuyaient sur un comité de l'ONU avaient échoué.
Bien que début mai, ce comité ait demandé à la France de suspendre toute décision, la France, avait dit Agnès Buzyn, n'est pas tenue de la respecter et le docteur Sanchez avait donc annoncé un nouvel arrêt, stoppé dès le lendemain par la Cour d'appel, qui se verra donner une leçon de droit par la Cour de cassation le 28 juin, sans renvoi possible. Cette fois, la machine judiciaire devenue folle pouvait définitivement s'arrêter et la médecine jouait enfin son rôle, accompagnée vers la mort, impatient, en obstination déraisonnable.
Daniel Messager, invité de ce journal, le professeur Régis Aubry, spécialiste des soins palliatifs au CHU de Besançon, ancien directeur de l'Observatoire de la fin de vie, bonjour.
Bonjour.
Alors cette saga ultra médiatisée, professeur, a-t-elle fait évoluer les mentalités et la législation, et dans le bon sens de votre point de vue?
Alors je crois qu'une telle affaire, avec ses rebondissements, suscite un vrai questionnement. Par exemple, quel intérêt y a-t-il eu aujourd'hui à métaboliser en quelque sorte tous ces atermoiements que vous venez de relater? C'est que la situation de Vincent Lambert, qui est représentative de la situation de très nombreuses personnes, finalement, on dit qu'il y a plus de 1500 personnes qui sont en état végétatif chronique. Cette situation est compliquée et singulière. Le fait que Vincent Lambert présentait un handicap, n'était pas malade, atteint d'une maladie grave, vient compliquer cette réalité-là. Donc c'est quelque chose d'effectivement très complexe pour lequel il ne faut jamais nier la complexité, toujours discuter, mais on ne peut discuter utilement que lorsqu'on accepte de faire un pas de côté et de changer d'avis. Et dans cette affaire, c'était l'irréductible position de certains qui a empêché qu'on puisse sortir, j'allais dire, par le haut de cette affaire.
Là, vous faites allusion aux parents qui dénoncent encore ce matin un crime d'État. Vous comprenez ça, oui. Cette attitude, ces croyances profondes qu'il faut parfois s'opposer et qui les font s'opposer tout le temps à ce genre de situation.
Je les constate, je ne les partage bien évidemment pas et je pense que c'est ce qui a empêché la résolution sereine d'une histoire complexe.
Alors, on peut préciser la règle, professeur, c'est le médecin qui doit décider et simplement informer la famille, mais à la base c'est bien le médecin qui décide.
Oui, c'est le médecin qui, in fine, décide lorsque la personne n'a pas écrit de directive anticipée. hein, dans cette affaire, si Vincent Lambert avait écrit des directives anticipées, elles se seraient imposées au médecin. Mais c'est in fine le médecin qui décide, mais il est tenu, au titre de la loi, de décider après ce qu'on appelle une concertation, une procédure collégiale qui fait que tous les acteurs qui concourent à la connaissance, en l'occurrence de Vincent Lambert, tous les acteurs de soins qui ont participé aux soins de M. Vincent Lambert, tous ses proches, doivent avoir été entendus et qu'à la croisée de leurs regards et de leurs opinions, on fonde une décision dont le responsable est le médecin.
Alors vous parliez des directives anticipées, cette affaire aura au moins eu ce mérite de sensibiliser les Français à ces instructions écrites qui, elles, s'imposent aux médecins. Mais pour l'instant, seulement 13% des Français, je crois, y ont pensé, si je puis dire.
Oui, bah parce que tout simplement, c'est quelque chose de très difficile à faire. Hein. Je n'ose pas vous demander si vous avez vous-même écrit vos directives anticipées. En fait, il est très difficile de se projeter dans une situation dans laquelle on n'est pas et dans laquelle on n'a surtout pas envie d'être. Et on a toujours peur d'écrire quelque chose qui n'est pas possible à penser, en quelque sorte. Pour moi, une directive anticipée est le fruit d'un cheminement, en réalité.
Bien sûr.
Et ça prend du temps.
Ça peut se faire sur papier libre ou sur un formulaire qu'on peut trouver sur le site du ministère. Professeur Aubry, est-ce qu'il faut aller plus loin maintenant que la sédation profonde et continue que prévoit la loi Leonetti ?
Je crois pas. Alors, je vous donne une opinion peut-être un peu rapide, mais je ne crois pas que ce qui est posé, c'est la question de la modification de la loi. Je dis que ce qui est posé, c'est l'obligation d'avoir des pratiques professionnelles réflexives, d'une part, de faire en sorte que on s'intéresse particulièrement à la question sensible des personnes qui présentent ce type de handicap. Il faut donc, pour des gens qui sont en état végétatif chronique, qu'on évite deux excès. L'excès serait de considérer que toutes les personnes en état végétatif chronique relèvent d'une décision d'arrêt de la nutrition. Ça serait irrespectueux de ces personnes. Mais tout comme il serait irrespectueux de penser qu'une personne, au seul motif qu'elle est en état végétatif chronique, ne peut plus avoir accès au droit commun, c'est-à-dire au droit d'arrêter des traitements. Il faut donc trouver pour chaque personne une façon de travailler qui est réflexive. La deuxième chose que me suscite votre question, c'est le fait qu'il faut aussi peut-être que nous, les professionnels de santé, les responsables du système de santé, nous réfléchissions à ce que la médecine ne produise pas des situations épouvantables comme celle-ci. Comment faire en sorte que la médecine ne produise pas de la souffrance, en quelque sorte ?
Professeur Régis Aubry, spécialiste des soins palliatifs, ancien directeur de l'Observatoire de la fin de vie. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Pour moi, l'affaire est terminée, disait tout à l'heure François Lambert, le neveu de Vincent. Pas tout à fait, puisque le procureur de la République a fait savoir qu'il demandait une autopsie du corps. Les parents Lambert ont porté plainte contre le docteur Sanchez pour homicide volontaire, ce qui ne justifie pas tout. Pour l'avocat de Rachel Lambert, l'épouse, Maître Fossier, au téléphone de Mathilde Lemaire.
Vous savez, on a vécu tout ça très durement, et là je pensais qu'on était à l'apaisement. Et là, mon cabinet vient m'avertir que ce ne sera pas complètement terminé, parce que on va encore ajouter aux souffrances de Rachel, de sa famille. J'apprends que M. le procureur de la République a décidé d'autopsier le corps de Vincent Lambert et d'auditionner Rachel Lambert. Je comprends pas. Je trouve que c'est vraiment ajouter encore à la souffrance des gens. C'est quelque chose que j'estime une grave erreur de la part de notre justice.
Voilà, ultime réaction pour l'instant à ce décès de Vincent Lambert, celle de Jean-Luc Romero qui appelle les parlementaires à changer la loi en urgence. Jean-Luc Romero, conseiller régional d'Île-de-France, président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Christine Boutin qui dénonce une barbarie d'État qui ne laisse plus aucune chance à la vie. Et puis à l'instant, la réaction du Vatican qui fait part de sa douleur et dénonce une défaite pour notre humanité.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamps.
C'est la seule décision qui s'imposait. Aurore Berger, la porte-parole de La République En Marche, députée des Yvelines, salue la démission de la directrice de cabinet de François de Rugy, Nicole Klein, après les révélations de Mediapart sur le logement HLM qu'elle a conservé pendant 12 ans alors qu'elle n'habitait plus Paris. L'annonce immédiate de son départ, c'est une bonne chose pour Aurore Berger qui s'interroge sur la nécessité d'aller plus loin dans la transparence. Les députés font une déclaration d'intérêt, dit-elle. Peut-être faut-il étendre la transparence à ceux qui travaillent à leur côté. l'été. Cette affaire touchant l'ancienne préfète des Pays de la Loire vient s'ajouter aux révélations qui visent le ministre lui-même, François de Rugy, accusé par Mediapart d'avoir mené grand train à l'hôtel de Lassay, la résidence des présidents de l'Assemblée. Dîner fastueux, homard et grand cru pour 10 à 30 invités à chaque fois. J'assume, a répondu l'intéressé qui met en avant ses fonctions de représentation, assurant avoir baissé au contraire les frais de réception. Le ministre garde bien sûr la confiance du président, a précisé Sibène Diaye, la porte-parole du gouvernement. Mais juste après la crise des Gilets jaunes, un an après l'affaire Benalla, voilà la Macronie de nouveau ébranlée, Yael Gauz.
Oui, Yves, attention aux étés politiquement meurtriers, affaires d'État, non affaires d'été. Vous vous souvenez, juillet dernier, et finalement, ça avait duré les quatre saisons. Pour l'instant, c'est l'épisode 3 dans la polémique de Rugy. Mediapart feuilletonne et relève 63 000 euros de travaux dans son logement de fonction. Rien d'illégal, c'est sur l'exemplarité revendiquée par le Nouveau Monde que ça coince. Au sommet de l'État, vous le disiez, ça tient, le ministre n'est pas lâché, il n'a rien fait de répréhensible, dit-on, mais le malaise est réel dans les rangs de la majorité, au parti En Marche d'abord. Stanislas Guérini, son patron, était ce matin sur France 2.
On voit des images de homards, etc. Je comprends que ça puisse questionner.
Choquer.
Et je pense
choquer
que...
ou questionner ?
Non, mais questionner. Et donc, il y a une déontologue à l'Assemblée nationale, à elle, de regarder les choses. Dès lors qu'il y a une polémique, et on voit bien qu'il y a une polémique, eh bien, je crois qu'il faut de la transparence.
La déontologue de l'Assemblée à saisir les députés En Marche aussi sont sur cette ligne pour pouvoir faire le tri entre les dîners privés et les dîners liés à la fonction. Aurore Berger est porte-parole de La République En Marche.
Si c'était des amis privés, là, il y aura un problème. Et là, il y aura la nécessité, évidemment, que ce soit des frais qui soient remboursés.
Et chez les marcheurs, une lettre circule en ce moment pour voir comment François de Rugy pourrait être auditionné. Car la nouvelle génération redoute l'effet boule de neige et l'amalgame. Il faut dérembourser l'homard au pâti, plaisante un député qui rit jaune. Partagé entre l'aversion pour les méthodes de Mediapart, le bilan de Rugy au perchoir, les économies effectivement réalisées et son imprudence coupable. Le ministre contre-attaque en ne changeant rien à son agenda. Déplacement en province sur un thème d'une actualité brûlante, la sécheresse de l'été 2019. Le numéro 2 du gouvernement en charge de l'écologie n'entend pas être recyclé. Son ancien parti ELV réclame, lui, sa démission.
Enfin, une affaire qui favorise en tout cas beaucoup les jeux de mots. Transparence, hein, c'est le mot du jour, Yael, et c'est la réponse du ministre. À nouveau, François de Rugy, encore interrogé sur cette affaire ce matin à Niort par Noémie Guillotin.
Je comprends que les Français puissent être un peu choqués par certaines images. D'ailleurs, je tiens à dire que ce sont les images qui ont été en quelque sorte des images volées. Je ne sais pas comment Mediapart a pu récupérer cela, mais enfin, c'est la vie. Et par ailleurs, je suis évidemment très attentif à ce que toutes les explications soient données et que si avec des personnalités extérieures, comme la déontologue de l'Assemblée par exemple, mais ça peut être d'autres formules, il y avait à des vérifications à faire, je suis tout prêt à m'y livrer et s'il y avait eu des erreurs d'appréciation de ma part, je serais tout prêt également à les corriger.
François de Rugy ce matin à Niort. C'est dans ce contexte que Benjamin Griveaux a été choisi hier soir pour être le candidat marcheur à Paris. L'ex-porte-parole du gouvernement qui a donc été préféré au député mathématicien Cédric Villani, lequel d'ailleurs n'a pas digéré sa défaite apparemment puisqu'il n'a toujours pas appelé à se ranger derrière le vainqueur. Les produits cultivés dans des serres chauffées peuvent-ils être labellisés bio ? Après des semaines à s'interroger sur ce point, la réponse est tombée ce matin oui et non. Oui, si les serres sont chauffées par le moyen d'une énergie renouvelable. Le Comité national de l'agriculture biologique qui devait trancher s'est mis d'accord et c'est déjà un exploit, Philippe Lefebvre. D'accord sur quoi précisément ?
Oui, un exploit effectivement parce que tous les producteurs bio, qu'il s'agisse de petits agriculteurs ou de grandes coopératives, se sont engagés à ne plus vendre en hiver des légumes d'été produits sous serre chauffée. Cela concerne les tomates bien sûr, mais également les poivrons, les aubergines, les courgettes et les concombres. Et l'interdiction ira du 20 décembre au 30 avril. Et pour ce qui est du chauffage des serres, sujet sensible et point sensible de cet accord, eh bien, il restera autorisé sous certaines conditions, a précisé ce matin Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture.
Aujourd'hui, il y a des serres qui sont chauffées telles qu'elles sont. Elles peuvent continuer jusqu'en 2025. À partir de 2025, le chauffage des serres ne pourra se faire qu'avec des énergies renouvelables. Que le chauffage des serres n'est pas là pour cultiver en contre-saison,
pour produire en contre-saison. Mais là, pour éviter les accidents qu'il peut y avoir, un gel de début de printemps ou autre, le chauffage des serres devra être là pour compenser des aléas climatiques. Et en aucun cas pour cultiver des fruits et des légumes en dehors des saisons.
Seul problème, il s'agira d'un engagement franco-français, donc cela n'interdit pas l'arrivée de tomates bio produites sous serre en hiver en Espagne ou aux Pays-Bas. Et puis les agriculteurs bio espèrent bien que la grande distribution jouera le jeu et ne proposera plus de tomates bio cultivées en plein hiver, mais ça, c'est loin d'être gagné.
Philippe Lefebvre, c'est vrai que la plupart des tomates bio vendues en France sont importées, il est parfois difficile de choisir entre la qualité et la proximité. Un plan social qui ne passe pas décidément à Conforama, le comité central d'entreprise qui devait détailler ce matin les 1900 suppressions de postes et les 32 fermetures de magasins a dû être suspendu. Des syndicalistes ont fait irruption dans la salle de l'hôtel Campanile où les esprits se sont vite échauffés, Maïwenn Bordron.
Oui, les salariés de Conforama sont toujours dans l'attente ce midi devant l'hôtel Campanile à Torcy. La reprise est incertaine après les tensions de ce matin. Certains salariés, vous le disiez, s'en sont pris à des agents de sécurité qui bloquaient l'accès au CCE.
1900 salariés à la porte, j'ai pas honte.
La colère continue depuis plus d'une semaine, a donc éclaté ce matin. Laurence, elle, a fait la route depuis Grenoble pour crier son désarroi. C'est la première fois qu'elle fait grève en 20 ans de Confo, comme elle dit.
Quand on a connu que Conforama, on se dit ben, qu'est-ce qu'on va faire comme travail après. On ne sait pas ce qu'on va devenir. Moi, j'ai des enfants, il y en a une petite de 3 ans. J'ai fait un crédit immobilier et comment je vais faire pour rembourser mon crédit si je trouve pas de boulot? Je suis là, je vais sortir et puis je vais dire ce que j'ai sur le cœur parce qu'on n'a pas le droit de faire ça à des gens qui ont donné tout ce qu'ils avaient.
La direction de Conforama dénonce de son côté les violences et menaces verbales suite à l'intrusion de ce matin. Des tensions justifiées selon Didier Piègne, il est représentant syndical FO au CCE.
Il y a juste eu des interpellations verbales, voilà, tout à fait légitimes quand on voit la façon dont la direction s'en est prise aux salariés aujourd'hui. Donc ils veulent leur demander des comptes, c'est tout à fait logique.
La plupart des manifestants sont partis devant le siège social de Conforama qui se trouve à Logne, à quelques kilomètres de là. Le CCE n'est pas encore annulé, mais c'est a priori une question d'heures, voire de minutes.
Maïwenn Bordron avec Éric Audra. Une taxe de 3% pour les GAFA, c'est fait. Le Sénat a définitivement voté ce matin le projet du ministre Bruno Le Maire. Taxe visant les géants du numérique réalisant au moins 25 millions sur le sol français. 3% seront prélevés sur leurs revenus à compter du 1er janvier dernier. Taxe française, pour l'instant, et qui a fait tiquer le président américain Donald Trump, qui a demandé à son administration de vérifier si cette taxe ne visait pas injustement les entreprises américaines, auquel cas les États-Unis se réserveraient le droit de riposter. Posté par de nouveaux droits de douane. Réaction ce matin à Bercy. La taxe dite GAFA ne déroge aucunement aux accords internationaux, ce que Bruno Le Maire a dit aux sénateurs.
C'est la première fois dans l'histoire des relations entre les États-Unis et la France que l'administration américaine décide d'ouvrir une procédure. Et je crois profondément qu'entre alliés, nous pouvons et nous devons régler nos différends autrement que par la menace. La France est un État souverain. Elle décide souverainement de ses dispositions fiscales et elle continuera de décider souverainement de ses décisions fiscales. Trouvons une solution au niveau de l'OCDE et passons par des accords plutôt que par des menaces. Cela me semble de meilleure politique pour traiter cette question fondamentale de la taxation des géants du numérique.
Bruno Le Maire, ce matin, au Sénat. Allez, c'est l'heure des départs en vacances. Vous prenez l'autoroute, vous franchissez des frontières à travers l'Europe. Alors, à quoi s'attendre? Delphine Simon, comment ça se passe chez nos voisins? C'est la chronique Europe du jeudi. Toutes les autoroutes sont-elles privatisées?
Non, c'est plutôt l'exception d'ailleurs. Dans la majorité des pays européens, une quinzaine en tout cas, les autoroutes sont publiques et gratuites. C'est le cas dans les pays du Benelux, les pays scandinaves, mais aussi au Royaume-Uni, à l'exception de quelques tunnels ou tronçons d'autoroutes qui sont payants. Les pays d'Europe centrale ont plutôt des partenariats publics-privés avec un système de vignettes à l'année sans péage. Seuls les pays du Sud ont privatisé leurs autoroutes. La France, l'Italie, le Portugal, la Grèce, l'Espagne. À noter que l'Espagne revient en arrière et renationalise ses autoroutes depuis l'an dernier. Le débat a également notamment été relancé en Italie l'an passé suite à l'effondrement du pont de Gênes.
Mais les prix sont-ils comparables ?
Les automobilistes européens ne sont pas logés à la même enseigne. C'est en France que les autoroutes sont les plus chères, 7 euros pour 100 km en moyenne, même si ces autoroutes sont réputées sûres et bien entretenues. 7 pays européens ont un système de vignette à l'année que l'on colle sur le pare-brise. C'est globalement plus avantageux à moins de rouler très peu. Mais là encore, il y a de grosses différences entre l'Autriche où il faut débourser 89 euros pour emprunter les autoroutes à l'année et la Roumanie, où il en coûte 28 euros pour les emprunter de façon illimitée. Enfin, à noter que dans les pays où c'est en apparence gratuit, l'ensemble des contribuables règle la facture, qu'ils aient ou pas une voiture. Longtemps gratuite en Allemagne, les autoroutes sont devenues d'ailleurs payantes pour les poids lourds, les voitures les plus polluantes et les voitures étrangères. Les Allemands, eux, bénéficient d'une déduction fiscale.
Et le péage sans barrière ?
Oui, le système est testé en Moselle depuis plusieurs mois, mais il existe déjà depuis longtemps au Portugal, où il est plutôt globalement décrié pour la complexité de sa procédure de paiement. Le péage sans barrière existe aussi sur certaines portions d'autoroute en Irlande, au Royaume-Uni. Bruxelles prévoit de légiférer sur ce sujet en 2019, car pour l'heure, les sociétés d'autoroute n'ont pas accès au registre d'immatriculation des voitures étrangères. Impossible pour l'heure de retrouver les mauvais payeurs. Il faudra donc attendre l'harmonisation européenne pour faire payer les automobilistes étrangers au péage sans barrière en France.
Delphine Simon, vers l'infini et au-delà, il y aura bientôt des autoroutes vers l'espace. Après la sonde Philae en 2014 qui s'était posée sur une comète, c'est une sonde japonaise qui s'est posée ce matin sur un astéroïde très lointain appelé Ryugu, 340 millions de kilomètres de la Terre. L'atterrissage ou le Ryugu-sage, je ne sais pas, s'est bien passé, Sophie Bécherel.
Après 4 ans de voyage, c'est en effet un sans-faute exceptionnel. Et en toute logique, ce matin, dans la salle de contrôle, les ingénieurs japonais ont salué la victoire avec le célèbre V de la victoire qu'ils affectionnent. Car ce qui se jouait ce matin encore, après une première tentative réussie en février, c'est un atterrissage ultra bref sur ce minuscule caillou situé dans l'immensité du système solaire. Un astéroïde hostile, rappelle Patrick Michel, astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur.
L'état de surface de cet astéroïde n'a rien à voir avec ce que l'on pensait au départ. Il est couvert de rochers, il y a des gros rochers de partout. Donc il n'y avait pas de zone d'atterrissage tranquille, on va dire. Et donc par rapport à la précision à l'atterrissage qui était initialement prévue, il a fallu augmenter cette précision à seulement quelques mètres parce qu'on ne trouvait pas de zone plus large que quelques mètres où on pouvait se poser.
Les Japonais ont donc travaillé dur pour revoir les scénarios de descente et programmer ce deuxième atterrissage, un touch and go qui a permis de récolter non pas de la poussière de surface, comme la première fois, mais du matériau issu du sous-sol de l'astéroïde, non altéré par les radiations solaires. En accédant ainsi au cœur du caillou, on remonte le film de la naissance de notre système solaire.
Ces astéroïdes sont les restes des briques qui ont formé les planètes telles que les nôtres. Alors certes, on sait que le matériau qu'ils contiennent n'est pas nécessairement le même, parce que bon, il y a d'autres concepts qui rentrent en jeu, mais en tout cas, ils ont gardé la mémoire de la composition initiale des ingrédients qui étaient à l'origine dans le système solaire, et cette mémoire, elle a été perdue dans les planètes. Les plus vieilles roches terrestres ont 4 milliards d'années d'existence, dans les astéroïdes, c'est plutôt dans les 4,5, 6, 7 milliards d'années. Donc en étudiant ces astéroïdes, en fait, on remonte le temps.
Reste la dernière étape, le retour à la maison de ces échantillons, c'est pour l'an prochain.
Sophie Bécherel, allez, les choses sérieuses dans le Tour de France, première vraie difficulté, c'est moins haut que Ryugu, mais cette planche des belles filles dans les Vosges n'a rien d'une planche avec plus de 20% de pente dans les derniers 300 mètres, Fanny Lechevestrier.
Ah oui, même 24% sur les 200 derniers mètres, ça s'annonce terrible. Et ce n'est pas la seule difficulté du jour, hein. C'est 4000 mètres de dénivelé que le peloton va devoir subir aujourd'hui au cours des 160 km. Une étape très difficile, la première étape de montagne. Et bien sûr, on en attend, comme souvent, beaucoup. On attend des écarts entre les favoris, savoir qui est en forme, qui ne l'est pas. Et on attend des Français, encore une fois, Julien Alaphilippe qui est toujours en jaune ce matin, mais aussi Romain Bardet et Thibaut Pinot.
Et ce n'est que la quatrième fois que le Tour arrive à ce sommet. Le temps.
La météo, avec les volets roulants Velux. La protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
toujours estival, mais plus nuageux, Élodie Calac.
Les températures sont souvent élevées pour la saison. Comptez 23 degrés à Brest, 24 à Mulhouse, 29 à Paris et à Auxerre, 30 degrés à Châteauroux, à Bastia, 31 à Bordeaux, 33 degrés à Montauban et Marseille et jusqu'à 35 à Nîmes. On trouve le soleil entre le sud-ouest et la Méditerranée avec juste une petite averse sur le relief corse. Sur les régions voisines de la Manche, de la Bretagne jusqu'au Pas-de-Calais, retour du soleil aussi. Ailleurs, ça reste encombré, bien voilé avec quelques ondées. Entre les Ardennes et l'Alsace, il y a plus de nuages, des averses parfois ponctuées d'un coup de tonnerre. Ça s'améliore en région parisienne. Demain, une perturbation traversera le nord avec seulement quelques gouttes. Les éclaircies reviendront l'après-midi. Au sud, ce sera ensoleillé dès le matin. Tout ça dans une ambiance estivale.